Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge et bienvenue dans notre bulle d'optimisme. On y découvre des femmes et des hommes qui ont l'audace d'entreprendre, qui ont des idées et qui font bouger les lignes, même quand c'est impossible. À La France bouge, c'est possible. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous.
Chef du service économie d'Europe 1, aujourd'hui on va parler de nos universités françaises qui s'en sortent bien au plein milieu de la crise sanitaire.
Oui, avec l'une des plus grandes universités françaises, Paris-Panthéon, Assas, c'est tout simplement la première université juridique de France. Tiens, bah justement, comment fait-elle face à cette cinquième vague, notamment pour les examens? Qu'en est-il de l'employabilité des jeunes au moment où on manque tellement de bras? Emmanuel Macron relance le débat sur la gratuité des facs. Et puis, plus globalement, à quoi les facs françaises doivent-elles ressembler demain? On va parler de tout cela avec le président de Paris-Panthéon, Assas, jusqu'à 14h.
À la une, en effet, nos universités. Et tiens, si on arrêtait le stylo et le papier pour passer des examens à la fac. C'est en tout cas ce que propose la start-up du jour, Theia. Elle propose cette solution, celle de dématérialiser les évaluations. On va découvrir tout cela avec son fondateur d'ici quelques minutes.
Alors ça, c'est une enseigne connue et reconnue par les professionnels, l'Atelier Petit. Si vous ne connaissez pas, c'est pas étonnant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils conçoivent notamment les robes et costumes d'audience et ce sera notre saga du jour, vers 13h30.
Constel Éducation veut démocratiser le mentorat en ligne, ô combien nécessaire, hein, surtout au moment des études supérieures où on est parfois un peu perdu. Justement, c'est notre pitch du jour, sélectionné avec la CCI. Le pitch va-t-il vous convaincre et convaincre notre témoin du jour? Réponse à 13h45.
Et puis en fin d'émission, demain au travail, comment réussir le flex office et le télétravail? Bah oui, c'est la question posée à de nombreuses entreprises avec le Covid. On va passer un coup de fil chez Tingari, tente de répondre à toutes ces questions. Ce sera aux alentours de 13h50.
Allez, bienvenue dans La France bouge. Vous pouvez nous suivre sur europe1.fr. Et nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1. Allez, aujourd'hui, on a décidé de prendre la température, sans mauvais jeu de mots, du côté de nos universités françaises. On parle de tout cela avec notre invité, jusqu'à 14h.
Bonjour Stéphane Braconnier.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour. Vous êtes le président de l'université Paris-Panthéon Assas, 20 000 élèves, près de 600 enseignants-chercheurs. Ce sont deux campus parisiens, un à Melun. À Paris, vous avez 13 sites, notamment. Et depuis 15 ans, vous êtes aussi présent à l'étranger, notamment à Singapour ou encore à l'île Maurice. Stéphane Braconnier, vous avez été nommé en décembre 2020. Hein, la crise avait déjà commencé. Comment ça se passe en ce moment alors qu'on est en pleine cinquième vague et on ne voit pas le bout, hein? Donc, comment vous vous êtes organisé à l'université?
Écoutez, les universités sont pleinement mobilisées. L'université Paris-Panthéon-Assas, comme les autres universités françaises, elles sont pleinement mobilisées pour organiser les examens qui se déroulent actuellement, qui sont terminés dans un certain nombre d'universités, mais qui se déroulent encore dans beaucoup d'universités. Et elles sont surtout mobilisées pour anticiper sur la rentrée du second semestre. Certaines universités ont déjà commencé les enseignements. Elles ont montré, ces universités-là, je crois, leur grande capacité à anticiper les situations et à s'adapter en permanence. Nous avons été, depuis maintenant presque 2 ans, situation de devoir nous adapter presque au jour le jour en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Et contrairement à ce que l'on a beaucoup dit ces dernières semaines, ces derniers mois, ce que l'on a trop dit, je trouve, les universités, ces derniers mois, ont fait preuve d'une grande capacité d'anticipation. Et pourquoi les examens actuellement se déroulent-ils dans des conditions qui, somme toute, sont plutôt bonnes? Eh bien, parce que nous avons su, avec mes collègues présidents d'université, avec le ministère de l'enseignement supérieur également, anticiper sur ce qui risquait de se passer au mois de janvier pour organiser ces examens dans les meilleures conditions.
Mais comment vous réussissez cette prouesse, justement, de les maintenir? Parce que si on prend nos vies à nous en entreprise, chaque jour, et y compris ici dans une entreprise comme Europe 1, on a des cas de Covid. Les tenir en présentiel, est-ce que ça ne représente pas un risque, malgré tout?
Alors c'est là où notre capacité d'anticipation, évidemment, nous oblige à être aussi imaginatif, hein, et donc l'anticipation ne va pas sans une certaine forme d'imagination, voire de créativité, je dois l'admettre.
Et donc, c'est au moins l'avantage de cette crise, ça nous fait réfléchir à des choses auxquelles on croyait.
On n'aurait jamais pensé.
Voilà, exactement, mais vous voyez, la France bouge, mais elle est aussi parfois créative. Et donc, l'important ici, c'est de mettre en place des protocoles sanitaires qui soient compatibles avec la situation sanitaire donnée, qui soient compatibles avec l'organisation des examens dans des conditions satisfaisantes, et qui vie en responsabilité nous permettent d'accueillir les étudiants dans les meilleures conditions. Il est évident, par exemple, que nous n'accueillons pas les étudiants pour les examens en janvier 2022, comme nous les avons accueillis en janvier 2021. En janvier 2021, le protocole sanitaire était beaucoup plus strict. Beaucoup plus strict. Nous avions, limité la durée des épreuves à 2 heures pour qu'il y ait un turnover plus important dans les amphithéâtres. Donc, nous nous adaptons en permanence.
Alors, vous vous adaptez, mais pour ceux qui sont positifs, est-ce que vous avez beaucoup de cas d'étudiants qui vont bénéficier de ce qu'on appelle un peu la session Covid?
Alors, exactement, ça c'est un autre pan de notre organisation, c'est-à-dire l'organisation d'une session dite Covid, une session de remplacement pour les étudiants.
Pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est ni le rattrapage, c'est une deuxième chance si on a été malade, c'est ça?
Exactement, parce que c'est une session que nous organisons rapidement après la première session à l'Université
Paris-Panthéon. Mais c'est quasiment du cas par cas.
Pardon ?
C'est quasiment du cas par cas.
C'est quasiment du cas par cas. Je vais y venir. À l'Université Panthéon-Assas, nous allons organiser cette session de remplacement dans la deuxième quinzaine du mois de février pour les étudiants qui s'inscrivent actuellement en nous disant qu'ils n'ont pas pu passer telle épreuve parce qu'ils étaient positifs au moment de cette épreuve ou parce qu'ils étaient cas contact à risque, non vaccinés par exemple. Nous avons aujourd'hui, pour répondre directement à votre question, au jour d'aujourd'hui et au moment où je vous parle, nous avons 407 étudiants qui sont inscrits sur la liste des étudiants qui doivent passer...
Sur environ 20 000 étudiants,
comme
disait tout à l'heure,
Elisabeth. Sur environ 18 000 étudiants qui ont passé les examens, 407, avec évidemment, comme vous l'avez dit, c'est une charge assez lourde pour nos services, parce que c'est un traitement au cas par cas. Un étudiant qui a été absent le lundi parce qu'il était Covid depuis le jeudi, en revanche, peut passer son épreuve le vendredi, et donc ne participera à la session de remplacement que pour une épreuve et pas pour l'intégralité de ses épreuves. Donc vous voyez la difficulté, et pour rebondir aussi sur votre question, sur notre capacité d'adaptation. La difficulté de la crise Covid aussi, c'est la question du télétravail et donc des agents administratifs de l'université. Et il faut dire que ces agents font preuve d'un engagement assez remarquable pour faire face justement à la nécessité d'organiser ces sessions d'examen très particulières.
Donc on le voit, les examens se tiennent, vous y arrivez, chapeau. Qu'est-ce qu'il en est des cours? Quelle est la proportion aujourd'hui des cours en présentiel? Vous arrivez à peu près à faire tous vos cours?
Alors,
entre guillemets, normalement.
Nous, à l'université Paris-Panthéon, ça, c'est j'assume à titre personnellement cette politique et cette règle. Nous accueillons les étudiants en présentiel autant que nous le pouvons et tant que nous le pouvons. C'est la règle que nous nous sommes appliquée pendant toute la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le gouvernement nous a donné la possibilité d'ouvrir nos amphithéâtres et nos salles de cours, eh bien nous avons accueilli nos étudiants dans les amphithéâtres et dans les salles de cours. Donc nous organisons tous les cours en présentiel. L'intégralité de nos cours et de nos travaux dirigés sont organisés en présentiel avec des règles sanitaires évidemment qui sont très strictes et qui sont contrôlés en permanence. Naturellement, lorsque dans un certain nombre de groupes de travaux dirigés ou de groupes de deuxième année de master, qui sont des groupes restreints, apparaît un nombre de cas Covid important, à ce moment-là, nous avons la possibilité de basculer les cours à distance.
Mais le distanciel ne sert à rien, entre guillemets, dans l'enseignement, parce qu'on a fait plusieurs émissions pendant la crise, y compris par exemple de Paris-Saclay qui nous disait, ou de Paris-Dauphine qui nous disait, cette crise va nous servir à quelque chose.
Bien sûr.
Parce qu'on a appris à faire de l'enseignement différemment à distance, et ça marche si vraiment c'est fait particulièrement pour un cours à distance.
Bien sûr, et je crois que c'est aussi un des grands enseignements de cette crise pour les universités. C'est d'abord d'avoir accéléré sans aucun doute l'équipement des universités, l'équipement numérique, digital des universités, justement pour pratiquer cet enseignement à distance, et d'avoir appris aussi les effets positifs, les aspects positifs de cet enseignement à distance. Je crois que pour tous ceux qui, comme moi, considèrent qu'on peut introduire une part d'enseignement à distance justement pour améliorer l'enseignement en présentiel, notamment faire un enseignement en présentiel en groupe plus restreint, cette crise nous aura beaucoup appris.
Tous les examens sont en présentiel. L'université Paris-Panthéon-Assas, c'est ce que vous nous dites, Stéphane Bracconi, avec ce chiffre, 407 étudiants à peine, j'ai envie de dire, sur 20 000 qui se sont inscrits à cette fameuse session Covid, cette deuxième chance. Vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bah oui, bien sûr qu'elle bouge et on le voit encore aujourd'hui avec nos universités. On est aujourd'hui avec la plus grande université de droit de France, l'université Paris-Panthéon-Assas. C'est son président Stéphane Braconnier qui nous accompagne et qui est notre grand témoin jusqu'à 14h.
Et si au lieu d'une feuille de papier, d'un stylo, les participants, les étudiants utilisaient une tablette ou un ordinateur pour passer leur examen, eh bien nous à la France Bouge, on a trouvé l'entreprise qui le permet. Bonjour Flavien Rey.
Bonjour.
Vous êtes le président de TEIA. TEIA est une entreprise qui a 15 ans. Vous êtes une plateforme d'évaluation et d'apprentissage numérique à la base. Mais si on la résume, en fait, vous êtes une start-up d'évaluation en ligne. En fait, vous évaluez les examens en ligne.
Tout à fait. Merci pour votre invitation d'abord. Oui, donc TEIA, c'est une plateforme de formation et d'évaluation. Je suis enseignant. Dans la partie formation, je conçois des cours. Mes étudiants le suivent en synchrone ou en asynchrone. Et sur la partie évaluation, donc examen, l'enseignant va pouvoir concevoir des sujets. Alors on couvre un spectre très large, ça va donc de l'auto-entraînement jusqu'au concours, en passant par les partiels, le contrôle continu, avec des modalités de questions très variées, sur lesquelles les étudiants vont pouvoir composer, aussi bien en présentiel qu'en distanciel.
Et vous avez vraiment une panoplie extrêmement large, parce que de ce qu'on a regardé avec Elisabeth, ça commence dès le CM1. Alors déjà, question toute bête, pourquoi c'est cette barrière-là, la base, le CM1, pas le CE2 ou le CM2 ou la 6e ?
Ou le CP, oui.
Ou le CP, ouais.
Alors, historiquement, la solution a été conçue pour l'enseignement supérieur. Nous sommes très présents dans l'université, les grandes écoles. Et c'est récemment que nous avons commencé à travailler donc avec l'école, le collège, le lycée. Alors, on a fait pas mal d'essais. Et c'est vrai que c'est à partir de cette classe que la solution...
Et pourquoi? Parce qu'ils se servent davantage, ils sont plus habiles.
Alors on s'est rendu compte que sur les petites classes, il y avait besoin d'un équipement plus particulier, spécifique. Et donc c'est une ambition hein, donc de couvrir tout le spectre de l'évaluation, comme vous l'avez dit. Donc nous sommes dans la formation continue, donc tout au long de la vie, et donc adapter à chaque fois les modalités pour la seniorité, pour la compétence, pour la discipline.
Mais c'est donc quand on fait de l'évaluation comme ça sur ordinateur, c'est juste des QCM, parce que quand on dit on n'a plus de stylo, on n'a plus de correcteur. On tape aussi complètement uniquement sur son ordinateur.
Alors c'est une excellente question. Alors au pays de la dissertation,
c'est vrai que le synthèse, si on fait pas ça à ça, on fait plus rien. Quand même.
Tout à fait.
Enfin,
tout à fait.
Aussi, vous savez.
Bon, ça doit quand même être un peu là encore.
Non, alors aujourd'hui, on a une palette très large donc de questions qui va évidemment. Enfin, le QCM, ce qui est le plus simple, c'est vrai que le digital fait souvent penser au QCM, mais du reste, l'utilisation de la plateforme aujourd'hui se fait énormément sur ce qu'on appelle les questions rédactionnelles, donc la dissertation. Avec le digital, c'est pareil, plein de possibilités. Alors notamment, je pense, une évidence, c'est les médias. Donc mettre de la vidéo, de l'audio dans une question, c'est simple, mais c'est très nouveau, puisque sur le papier...
Finalement, un peu comme ce qu'on fait au permis de conduire maintenant.
C'est vrai, d'une certaine manière. Mais aussi, alors, des modalités qui sont beaucoup plus intéressantes, parce que alors, c'est vrai que l'examen est beaucoup utilisé pour le contrôle des connaissances, mais aussi ce qu'on appelle l'approche par compétences aujourd'hui, évaluer du savoir-faire, du savoir-être, avec des questions notamment, je pense, ce qu'on appelle les tests de concordance de script. C'est une question assez particulière aussi, on peut les appeler questions sondage. Aujourd'hui, dans la vie réelle, on est souvent dans des contextes d'incertitude, et il n'y a pas une seule réponse à une question. Et alors un étudiant va le mobiliser sur une question et la réponse, elle va être donnée par un panel d'experts. Et la techno permet ça, puisqu'on peut mobiliser rapidement 20-30 experts sur n'importe quelle discipline. Marketing, par exemple.
Mais ça vous prend plus de temps pour vous d'évaluer? Parce que j'ai l'impression que là, avec tout ce que vous êtes en train de nous raconter, il y a tellement de possibilités. Est-ce que du côté de l'examinateur, c'est d'abord, est-ce que c'est plusieurs examinateurs?
Alors, ça demande un investissement initial. En revanche, derrière, c'est un des grands bénéfices de la plateforme. C'est un gain de temps considérable.
Pour qui ?
Pour les enseignants.
Mais pourquoi ?
Alors, le premier, c'est la correction. Aujourd'hui, alors, les chiffres ne sont pas évidents.
Pourquoi qui corrige chez vous ?
Alors, il y a les questions qui peuvent être corrigées automatiquement, notamment les QCM que vous avez citées. Correction semi-automatique, alors certaines questions rédactionnelles, qu'on appelle la question rédactionnelle courte. Et enfin, les questions donc rédactionnelles qui vont être corrigées complètement manuellement. Du reste, on a aussi un gros avantage, c'est l'équité de la correction pour les étudiants. On est capable de mobiliser des correcteurs partout en France, dans le monde, sur une discipline donnée, sur une question, sur un bout de question, peut-être corrigée à plusieurs reprises, une copie peut-être revue. Et d'ailleurs, c'est le fondement
d'ailleurs. Vous avez vous-même des correcteurs un peu en sous-traitant, c'est-à-dire que
je ne sais pas si c'est le cas par exemple de Paris Panthéon Assas, mais ils pourraient venir vous voir en disant on a besoin d'organiser tel concours d'entrée et vous vous occupez de tout quand c'est ça ?
Alors nous sommes exclusivement une société de technologie.
Voilà, c'est ça.
Nous mettons à disposition la plateforme.
Et après, c'est les correcteurs de telle et telle école qui s'occupent de vérifier tout ça. Vous les formez pour être aptes
tout à fait
aux outils. Mais c'est vrai que vous répondez à une problématique de cette crise qui est assez impressionnante. Vous avez dit à nos équipes pour préparer cette interview, vous avez proposé déjà un examen pour 10 000 étudiants en même temps qui étaient sur 34 lieux différents.
Tout à fait, 34 lieux différents et avec des salles de classe, des amphithéâtres différents au sein de ces lieux. Donc c'est une grosse partie de notre métier, des fonctionnalités qu'on a vues ensemble. Et il y a la capacité de monter en charge, hein, ça répond aux enjeux de massification et sur lesquels on est capable de faire du synchrone sur des très très gros volumes dans plusieurs endroits.
Stéphane Braconnier, vous êtes le président de l'Université Paris Panthéon Assas, vous êtes notre grand témoin du jour. Vous en pensez quoi ? Est-ce que le digital, le numérique peut remplacer le traditionnel examen tel que l'on le connaît en salle d'université.
Moi, je trouve ça absolument passionnant et c'est évidemment un enjeu extrêmement important pour nos universités dans les années qui viennent. Je crois que ce qu'il faut distinguer ici, et vous l'avez d'ailleurs bien dit dans votre interview, c'est l'outil, la technologie que vous offrez aux établissements et puis ensuite la plus-value qu'ont les correcteurs de l'établissement et les professeurs de l'établissement dans la correction et la conception et la correction des examens. Cette technologie, je ne suis pas persuadé qu'au jour d'aujourd'hui, les universités soient mûres pour l'adopter intégralement, c'est-à-dire pour la totalité de leurs examens. En revanche, il y a une place très claire aujourd'hui dans les universités pour ce type de technologie. Je vais vous donner un seul exemple. À l'Université Paris-Panthéon-Assas, parlons de ce qu'on connaît bien, nous avons depuis 10 ans maintenant une licence numérique en droit. Ce qu'on appelle la licence numérique en droit, en fait, c'est une licence à distance qui accueille 1500 étudiants tous les ans et des étudiants qui sont, pour certains d'entre eux, en France, mais qui, pour beaucoup d'entre eux, sont dans le monde entier. Jusqu'à cette année, nous organisions encore les examens de la licence à distance en présentiel. C'est-à-dire que le seul moment en présentiel...
Monde, fallait venir.
Alors, ils allaient dans les ambassades, dans les consulats, donc c'était une charge pour nous de trouver des lieux pour les accueillir, pour passer leurs examens. Inutile de vous dire que dans les ambassades, dans les consulats, on n'accueille plus aussi facilement nos étudiants durant cette crise sanitaire. Et donc, nous nous tournons vers des solutions de ce type-là pour justement.
Mais comment c'est sûr qu'ils ne trichent pas, l'élève, quand alors, c'est ça. Je suis désolé, vous allez trouver que j'ai l'esprit mal tourné, mais.
Exactement, et je voulais terminer justement par ça. C'est-à-dire qu'il y a la technologie, il y a la matière grise, la correction, et puis ensuite, il y a tous les enjeux éthiques. Je dirais, parce que si vous voulez que si on veut que les étudiants composent dans des conditions d'égalité satisfaisantes, il faut qu'il y ait un contrôle à distance, la prise en main de leur ordinateur par la société qui organise l'examen, l'activation de leur webcam sans leur autorisation, et puis ensuite un screening, si je puis dire, par intelligence artificielle de l'ensemble des images qui ont été captées pour savoir si une autre personne s'est introduite dans la pièce, s'il y a eu une conversation entre le candidat et une autre personne,
s'il a été
sur un site alternatif, etc. Il a son téléphone, il peut se trouver.
C'est une vraie,
s'il est en présentiel, il y a certains petits génies qui arrivent aussi. Hein.
Ah bon, bah
alors c'est d'ailleurs une remarque que font certains, c'est-à-dire que certains considèrent que compte tenu de l'avancée de la technologie, il y a sans doute moins de triche et peut-être moins de triche dans cette configuration-là qu'en présentiel. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même des enjeux éthiques qui sont d'ailleurs traités par la CNIL. J'ai moi-même interrogé la présidente de la CNIL sur cette question, qui sont traités par la CNIL, sur laquelle la CNIL va émettre des avis. Mais vraiment, je trouve ce que vous avez expliqué vraiment passionnant, parce que c'est vraiment l'enjeu dont nous allons devoir nous saisir dans les années à venir.
Flavien Rey, vous êtes présent dans 6 pays et 40 autres pays par l'intermédiaire de partenaires. Ça va aller jusqu'où ?
Tout à fait. Écoutez, le but, c'est d'équiper le plus de disciplines possibles, d'abord. Nous sommes nés dans la santé, dans les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, plus récemment dans le droit, d'ailleurs. Et toutes les formations et les évaluations sont envisageables sur la plateforme.
Ça s'appelle Théia. Merci à vous, Flavien Rey, d'être venu dans La France Bouge nous présenter donc votre solution d'examen complètement dématérialisée. Merci à vous.
Et Stéphane Braconnier, le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
On parle de l'université aujourd'hui avec notre grand témoin qui est le président de l'université Paris-Panthéon-Assas, Stéphane Braconnier. Merci d'être avec nous jusqu'à 14h. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe sur la situation de l'emploi maintenant pour vos étudiants. On parle beaucoup de manque de main-d'œuvre en ce moment et ce, dans tous les métiers, hein, que ce soit des jobs manuels ou des jobs qui demandent une formation pour certains un poil plus poussée. Concrètement, comment ça va en ce moment, du côté de l'employabilité de vos étudiants?
Mais écoutez, peut-être paradoxalement, je ne sais pas, compte tenu des 2 ans de crise sanitaire que nous venons de traverser, mais paradoxalement, l'employabilité de nos étudiants, le taux d'employabilité de nos étudiants, quelle que soit la discipline, hein, l'Université Paris-Panthéon-Assas, pour donner un ordre d'idée, c'est 20 000 étudiants, 15 000 juristes environ, et les 5 000 étudiants supplémentaires, c'est des étudiants qui étudient les sciences économiques, les sciences de gestion, l'information communication et la science politique. L'employabilité de nos étudiants se maintient à des taux supérieurs à 90% dans un certain nombre de domaines, notamment dans le domaine du droit ou dans le domaine des sciences de gestion. Et non seulement le taux d'employabilité se maintient à des niveaux élevés, mais le niveau de rémunération à l'entrée sur l'emploi se maintient également à des niveaux assez élevés.
Se maintient ou progresse même un peu.
Et progresse même un peu, c'est exactement cela. Nous restons, nous, dans le haut des classements qui sont faits sur à la fois l'employabilité et le niveau de rémunération. Mais je dirais que de manière générale, la situation des diplômés de l'enseignement supérieur s'est plutôt bien maintenue ces dernières années, tant sur l'employabilité que sur le niveau de rémunération.
Donc ce que vous nous dites, Stéphane Braconnier, c'est que vos étudiants trouvent du travail.
Nos étudiants trouvent du travail et trouvent du travail bien rémunéré. Ils trouvent du travail d'ailleurs, surtout, et ça c'est important également, ils trouvent du travail dans les domaines qu'ils recherchent. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas des emplois par défaut. Mais ils trouvent du travail dans vraiment les secteurs qui les intéressent.
Mais l'université Paris-Panthéon-Assas, c'est une vieille université qui est remplie de traditions. Comment parvenez-vous à donner de nouvelles compétences à vos étudiants, notamment dans le numérique, dans tous ces nouveaux métiers indispensable, hein, avec des métiers plus traditionnels, plus anciens. Comment faites-vous? Est-ce que ça signifie que vous avez rajouté des modules par-ci, par-là? Comment vous êtes organisé?
C'est un enjeu très important pour les universités. Vous avez vu, le président de la République, la semaine dernière, devant le congrès de France Université, a déclaré que l'enseignement supérieur devait se reconstruire autour des universités, qui sont des lieux de formation, des lieux de recherche, mais aussi des lieux de professionnalisation. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de faire de la prospective, c'est-à-dire se projeter dans les 5 ou les 10 prochaines années. Et c'est ce que nous faisons à l'université Panthéon-Assas, parce que j'ai la conviction que nos étudiants, aujourd'hui, sur un socle de connaissances traditionnelles, si on prend les juristes par exemple, il y a toujours de la place, évidemment, pour des étudiants qui voudront suivre une filière à 100% juridique de la première année jusqu'à la 5e année. Mais il y a une demande de plus en plus forte des étudiants, mais aussi des milieux professionnels, pour des compétences plus diverses, peut-être plus en prise avec des enjeux de demain, notamment dans le numérique. C'est la raison pour laquelle, par exemple, à l'université Paris-Panthéon-Assas, nous avons créé au 1er janvier 2022 un nouvel établissement. L'université s'est transformée et a accueilli dans son giron, si je puis dire, comme établissement composante, notamment une école d'ingénieurs qui est EFRAE Paris, qui est une école d'ingénieurs spécialisée dans le numérique, qui va nous permettre, nous, d'offrir à nos étudiants des compétences techniques dans le domaine du numérique. Comment peut-on aujourd'hui conseiller une grande entreprise du secteur des GAFA si on n'a pas une connaissance technique minimale de la manière dont tout cela fonctionne? Et c'est cela, je crois, l'enjeu des 5-10 prochaines années.
Donc ça repose de plus en plus sur des partenariats publics-privés. Vous avez cité le président de la République la semaine dernière. Il a jeté un énorme pavé dans la mare avec cette phrase où il a estimé que l'on ne pourrait pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, je cite, hein, c'est ce qu'il a dit. Vous en pensez quoi?
Ça, c'est un débat qui, à la fois, est ancien et peut-être...
Sauf que là, on est en campagne présidentielle. C'est pas dit incidemment.
Et c'est un débat ancien. Et je crois que c'est un débat qui, finalement, est assez mal posé, si je puis me permettre, parce que si l'on fait des comparaisons européennes, des pays comme l'Allemagne, par exemple, posent des droits d'inscription qui sont inférieurs à ceux qui sont pratiqués en France. Et le système d'enseignement supérieur allemand ne rencontre pas certaines des difficultés que nous rencontrons ici. aussi.
Alors, si on difficulté. Prend cet exemple aussi, c'est parce qu'en Allemagne, il y a une sélection un petit peu plus grande et il y a un taux à l'université moins important que ce que nous, on peut connaître en France. Parce que justement, si je cite à nouveau le président, il dit « dénoncer l'intolérable gâchis de l'échec en première année où seuls 50% des jeunes se présentent aux examens ». Alors, quel est le corollaire de la première phrase ?
Ça, c'est une véritable difficulté. C'est-à-dire que il y a de l'argent public qui est injecté dans les universités, et heureusement, parce que les universités ne vivent en définitive que grâce à l'argent public, en partie, puisqu'il y a quand même eu le développement d'un certain nombre de partenariats avec les entreprises, le développement de l'apprentissage dans les universités, dont on pourra reparler par ailleurs. Mais ça, c'est un véritable enjeu. C'est l'enjeu des premières années, en particulier de la première année. Notre capacité à nous, universités, compte tenu des moyens que nous avons, de mieux accompagner les étudiants, de travailler en groupe plus restreint, de renforcer le tutorat. On met le tutorat, par exemple, en première année de licence, très souvent, et ensuite, en deuxième, troisième année, il n'y a plus de tutorat. La crise sanitaire a montré, parce que pendant cette crise sanitaire, on a mis en place du tutorat de manière un peu plus importante dans les années ultérieures, que ça fonctionnait plutôt bien. Donc je crois que là, il y a une véritable question systémique, comme on dit. Est-ce qu'on se maintient dans ce système de gestion, on va dire, des masses, de gestion de grands effectifs, ou est-ce qu'enfin on invente un système dans lequel nous sommes capables, nous, universités, avec les moyens que l'État va accepter de nous donner, d'améliorer les choses.
Alors Stéphane Braconnier, chaque jour dans la France Bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'un produit, d'une association qui ont traversé les années, qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui, je vous propose d'aller visiter l'atelier Petit conçoit fabrique des costumes d'audience depuis les années 70.
Oui, il est à côté de Poitiers, ils ont une boutique également à Paris, je crois que vous les connaissez bien, et c'est Quentin Paillet qui nous y emmène.
Europe 1, la France bouge, la saga.
On reconnaît les policiers et les pompiers à leurs uniformes, mais d'autres métiers sont aussi reconnaissables grâce à des vêtements. C'est le cas des avocats, des magistrats et parfois des universitaires. On les appelle costumes d'audience, ces longues robes noires avec des rabats, ces fameuses cravates blanches. Et une entreprise française en fabrique depuis presque 50 ans, presque, car on ne connaît pas la date exacte de la création de l'atelier Petit. Tout commence avec Madame Petit, couturière. Elle confectionne des robes pour les femmes des notables de Poitiers. Et puis un jour, elle fabrique la robe d'un avocat, puis d'un autre. Et de fil en aiguille, elle ouvre son atelier. Camille Maupin, dirigeante de l'atelier Petit.
Donc ça a commencé comme ça. Elle a commencé tout doucement, avec une fille qui travaillait avec elle. Et puis après, elle a grossi un peu dans les années 80-90. Et nous, on a racheté la société en 2017. Qu'elle a décidé de prendre sa retraite. Donc nous, on a repris la succession et on a modernisé un petit peu tout le principe de fabrication, les machines, le bâtiment, pour que les filles puissent avoir un espace plus adéquat pour la création et la conception des tenues sur mesure.
Avocat, magistrat et même universitaire, la base des costumes d'audience est la même. Robe large, revers de manches assez haut, des fronces au niveau des épaules. Les costumes d'audience sont extrêmement codifiés. Comme pour les militaires, tous ont des grades et chaque grade a ses couleurs et ses symboles.
La différence avec une robe de magistrat, par exemple, qui elle va être toute noire ou rouge et noire, une robe d'universitaire prend la couleur de sa discipline. Donc par exemple, les professeurs de médecine vont avoir une couleur groseille, les professeurs de sciences vont avoir une couleur amarante, les professeurs de sciences humaines, donc lettres, histoire, psychologie, eux ils sont en jaune. Chacun a les mêmes accessoires, une épitoche avec trois renforts, puisque ça indique leur grade, leur niveau d'études on va dire, donc trois renforts c'est pour le niveau de doctorant. Un rabat blanc et une toque.
Taille de la personne, est-ce qu'elle porte une cravate, un col roulé, un nœud papillon, est-ce qu'elle a tendance à transpirer lors des audiences? Tous ces critères sont pris en compte par les 5 couturières de l'atelier Petit et toutes les robes sont sur mesure. Mais pas de fantaisie, ces robes sont le fruit de l'histoire et les couturières ne sont pas libres de laisser libre cours à leur inspiration, notamment pour les robes d'avocats et de magistrats.
Si on décide de changer quelque chose, il faut en faire une demande auprès du ministère de la Justice en leur soumettant le pourquoi du comment et en expliquant que on a changé telle et telle chose parce que, je vais dire des bêtises, moi par exemple les avocats, ils veulent plus de plis sur l'épaule, on l'a remarqué depuis plusieurs années, donc on a commencé à faire d'autres formes et du coup voilà, mais faut que ça soit validé par le ministère de la Justice.
L'atelier Petit vend entre 500 et 600 robes chaque année, majoritairement des robes d'avocats, mais les robes universitaires représentent tout de même un tiers du chiffre d'affaires de l'entreprise.
On en apprend des choses chaque jour, notamment grâce à vous aujourd'hui. Quentin Paillet, Stéphane Braconnier, vous êtes le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Vous avez d'Europe, je crois, qui viennent de chez eux, c'est ça ?
Oui, exactement. Je suis très fidèle aux ateliers petits. Vous savez, la création des ateliers petits à Poitiers, qui est une ville qui m'est chère. Et l'université, effectivement, commande une partie de ses robes, une grande partie de ses robes aux ateliers petits, parce que la concurrence existe sur ce marché de niche, celle des costumes d'audience, comme on dit. Mais le nombre d'entreprises qui travaillent est très peu important. Et l'entreprise petit est vraiment une entreprise artisanale ancienne.
Donc ça, vous y tenez. Qui, ça fait partie
exactement,
aussi de la réputation
important.
De l'université.
Et puis je crois que ces robes, ces costumes d'audience, pour les universitaires en tout cas, c'est aussi la marque de la tradition au sein de l'université, la tradition de l'enseignement
académique. Ça boucle le cycle en quelque sorte.
Ça boucle le cycle, le fait que les soutenances de thèse, par exemple, se déroulent avec des professeurs en robe d'universitaire, c'est le signe d'une tradition qui perdure et qui est aussi la marque de l'université.
En tout cas, nous, on va continuer à parler de cette université. On va parler maintenant de mentorat, si vous le voulez bien, Stéphane Braconnier, avec le pitch du jour. Vous restez avec nous ?
Bien sûr.
Et on continue.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, on va continuer à parler d'innovation dans ce monde de l'éducation à l'occasion de notre trophée de l'avenir, de l'avenir européen, la France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, Stéphane Braconnier, qui est le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Et puis, bien évidemment, elle pourrait mettre n'importe quelle robe d'audience qu'elle arriverait avec ses précieux conseils. Nathalie Carré, notre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie.
Et aujourd'hui, dans la France bouge, une entreprise née il y a un an et demi. Bonjour Paul Cartier.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Vous êtes le cofondateur de Constel Éducation. Vous, Paul, vous souhaitez démocratiser le mentorat en ligne au moment des études supérieures. Vous avez 24 ans, vous êtes accompagné par la station F à Paris. Vous-même, vous avez été mentor de mathématiques. Vous y avez vu en direct les effets bénéfiques pour les élèves que vous avez accompagnés. Alors, Constel Éducation, c'est quoi ? Eh bien, vous allez tout nous raconter. C'est parti pour votre pitch. Vous avez une minute.
C'est parti. Il y a 3 ans, j'étais mentor pour des élèves de classe préparatoire. Et à l'issue d'une de mes séances, une élève m'a dit « Merci, tu m'as redonné foi dans les maths ». Ça m'a autant surpris que ému. Et ça m'a surtout permis de réaliser qu'un étudiant qui explique à un autre étudiant, eh bien, ça fonctionne. Ça débloque des situations. Et on a donc créé Constel Éducation, une plateforme 100% en ligne avec 3 services. Un espace de chat entre tous nos étudiants. Un service de mise en relation avec des mentors en visio. Et une bibliothèque e-learning. Aujourd'hui, on a près de 2500 étudiants qui progressent ensemble tous les jours. Et en 2022, on a la volonté de passer un vrai cap après être entré à Station F et de faire un deuxième tour de levée de fonds en seed pour tout d'abord générer encore plus d'échanges entre tous nos étudiants sous forme de réseau presque social, approfondir les discussions de collaboration avec des grandes écoles et universités et enfin lancer notre modèle dans plein de nouvelles filières de l'enseignement supérieur comme les universités, avant de préparer l'international pour la suite.
Et ben voilà, parfait.
C'est hyper clair.
C'est hyper clair, sauf que je suis sûr que là, pas mal à la maison en voiture, c'est en train de se dire...
mais ça coûte combien ?
Voilà, c'est gratuit cette histoire. Alors, la seule chose qui est gratuite chez vous, c'est l'inscription, c'est ça,
Tout à fait.
Mais bon, une fois qu'on est inscrit, on ne peut pas faire grand-chose. Donc si on veut pouvoir discuter avec tout le monde, vous êtes en train de travailler un abonnement, on m'a dit que c'était 24 euros pour contacter après tous les mentors de la base, c'est ça. Mais c'est 24 euros, c'est-à-dire quoi, l'abonnement par mois, par an, par... Comment ça marche ?
Exactement. Alors en fait, l'inscription permet d'accéder à la communauté, donc du coup de l'espace de discussion pour échanger avec les autres utilisateurs et trouver une première partie des réponses à ces questions. Et ensuite, donc, il y a une souscription qui s'appelle le Pass Astronaute, comme vous l'avez dit, qui est cet abonnement à 24 euros et qui permet pendant 30 jours de contacter tous les mentors de notre base dans toutes les filières pour essayer une première heure avec 3-4 mentors et trouver celui avec qui ça passe le mieux. Parce qu'il y a une histoire de feeling dans le mentorat qui est extrêmement important d'avoir un mentor avec qui ça match.
Avec qui on s'entend bien et avec qui on... Ouais, parce qu'il y a cette confiance qui s'instaure et du coup, on se projette
le mentorat.
Exactement. Alors non, moi j'ai arrêté. Malheureusement, j'ai plus le temps aujourd'hui, mais je l'ai fait pendant plus
belle,
de 2 ans.
Très belle expérience. Alors chaque jour dans La France bouge, Paul, on a les conseils avisés et l'expertise de Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la CCI. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Paul, bonjour Emmanuel.
Coucou.
Alors, quelles sont les forces et les faiblesses de Constel Éducation, Nathalie ?
Alors, les points positifs, alors c'est vrai que votre positionnement est très clair. C'est l'excellence des classes prépa au service des futures élites des classes préparatoires. Bravo aussi pour la diversité des cours proposés. Il y a les matières classiques, bien sûr, mais aussi, par exemple, l'entretien de personnalité ou des exercices de synthèse. Puis, c'est très bien de mettre à disposition la liste de vos mentors et tous les cours. Ça permet de vérifier si votre offre répond à notre besoin avant de s'inscrire. Alors, un point amélioré des suggestions. Peut-être qu'il faudrait revoir votre phrase d'accroche, parce que vous dites « rejoignez la meilleure communauté pour réussir votre classe préparatoire », mais en fait, vous proposez beaucoup plus que ça. Il y a les cours, il y a le mentorat, il y a un espace d'échange, mais il y a aussi un accompagnement de votre part si on le souhaite. Et puis, trois suggestions. Expliquez en quoi vous êtes différent de tous les sites qui proposent des cours en ligne, mais aussi des temps individuels avec des profs ou des petits cours collectifs en ligne. On peut éventuellement faire plus confiance en des profs qu'en des anciens étudiants. Deuxième suggestion, expliquez comment vous sélectionnez les mentors. C'est important, et surtout pour les parents qui vont sûrement financer cet accompagnement. Et puis surtout, le mentorat, c'est une technique qui est très connue, notamment en entrepreneuriat. Et en fait, tous les acteurs qui font correctement leur travail ont finalement mis en place des formations des mentors. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir 18 ou 20 en maths pour être un bon pédago et un bon mentor. Cette professionnalisation des mentors est bonne pour tout le monde, et notamment pour garantir le sérieux de votre entreprise. Ainsi, Constel Éducation devient vraiment le tremplin de la réussite en classe préparatoire.
Toujours des précieux conseils. Hein. Merci Nathalie Carré. C'est intéressant ce qu'elle vous dit, Paul, Nathalie Carré. Elle vous dit il faut qu'il y ait plus de détails. Comment vous allez vous différencier par rapport à tout ce qui existe? Quand on tape mentorat sur Internet, vous n'êtes pas le seul.
Non, c'est sûr, et c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir plusieurs acteurs sur ce marché. Nous, on a vraiment tout recentré autour de la communauté digitale en ligne, à savoir des étudiants qui sont passés par la filière de l'élève et d'éviter d'avoir justement un accompagnement par quelqu'un qui ne connaît pas les enjeux ni ce qui va se passer, à savoir les concours, le niveau de pression qu'on a. Et on sait que les études sont très différentes, qu'on soit justement en classe préparatoire, en université ou dans d'autres filières.
Stéphane Braconnier, vous êtes le président de l'université Paris-Panthéon-Assas, notre grand témoin. Vous en pensez quoi, tout simplement?
D'abord, moi, je signe immédiatement pour le pass astronaute. Hein. Ça, c'est formidable.
Vous avez plus,
hein. Non, plus sérieusement, d'abord, je trouve vraiment cette idée formidable et elle est en plein dans la cible des besoins actuels de nos étudiants. Moi, ce que je remarque en tant que président d'une grande université, c'est que nos étudiants, indiscutablement, sont plus autonomes. Plus autonomes dans la manière de s'organiser, dans la manière de travailler. Ils ont une grande maîtrise des réseaux sociaux, grande maîtrise du numérique, et je dirais que la crise sanitaire les a rendus plus nomades aussi. C'est-à-dire qu'on a assisté à une nomadisation,
aussi,
si je puis dire.
Plus seul aussi, donc le mentorat peut-être intervient encore de façon
exactement,
plus
prégnante. Exactement, et donc à une sorte de nomadisation des études qui fait qu'un étudiant va suivre un cours en présentiel dans un amphithéâtre et puis ensuite va avoir un cours en distanciel qu'il va suivre dans un couloir ou dans une bibliothèque ou chez lui. Et donc cette plus grande autonomie des étudiants, doublée d'une forme de nomadisation des études, si vous me passez l'expression, eh bien paradoxalement s'accompagne d'une demande plus forte d'accompagnement. Hein, et d'accompagnement tant par du tutorat classique, hein, c'est-à-dire une assistance aux études, que par du mentorat. Et le mentorat, je dirais que c'est plus que du tutorat, c'est vraiment un accompagnement, une explication, donner un sens aussi aux études. Et je trouve très intéressant ce que vous avez dit, Paul, sur le fait que ce mentorat permettait de débloquer les situations. Et c'est vraiment l'objectif de ce mentorat. Nous, on l'a mis en place à l'université avec des professionnels, et notamment avec le barreau de Paris l'année dernière. On a signé un grand accord pendant la crise sanitaire pour que les avocats fassent du mentorat auprès de nos étudiants en droit.
En tout cas, ça marche bien et on vous souhaite bonne chance, hein, Paul Cartier. Vous êtes le cofondateur de Constel Éducation. Vous reviendrez nous donner de vos nouvelles. Hein,
bien sûr, avec plaisir.
Merci à vous.
Et Nathalie Carré, on vous retrouve dès demain si vous voulez présenter votre entreprise. C'est très simple. Une seule adresse mail, lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1, La France Bouge.
Allez, suite et fin de votre émission. Stéphane Braconnier, vous restez avec nous encore quelques minutes.
Bien sûr.
On continue.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On est ravis chaque jour avec Elisabeth Assayag de vous accueillir chez nous autour de la table de La France bouge en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h aujourd'hui pour parler des universités avec Stéphane Braconnier, le président de l'université Paris-Panthéon-Assas.
Et chaque jour dans La France bouge, on met en avant ces entreprises qui placent l'humain et le bien-être du salarié au cœur de leur développement et ces entreprises qui s'adaptent à nos changements d'habitude. Bonjour à... Et nous sommes en ligne avec Thomas Petit, parce que Thomas Petit, figurez-vous, il fait partie d'un cabinet de conseil en ressources humaines. Et là-bas, on le sait, hein, depuis le début de la crise, depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises s'adaptent pour mettre en place le télétravail et ce que l'on appelle notamment le flex office. Bonjour Thomas Petit.
Bonjour et merci de m'avoir invité.
Vous avez décidé de réduire la taille des locaux par deux et de privilégier le télétravail à fond. Et donc, vous avez mis ce qu'on appelle le flex office, c'est-à-dire plus de bureaux attitrés, c'est bien cela?
C'est tout à fait ça. On a supprimé l'ensemble des bureaux attitrés, du comité de direction aux collaborateurs le plus récent dans la société et tout le monde aujourd'hui participe, partage ses bureaux.
Alors, comment vous avez fait? Ça nous intéresse, hein,
on
a envie de le mettre en place.
On l'a fait très simplement. D'abord, on a anticipé après le premier confinement qu'on ne reviendrait pas tous au bureau. Et donc, on s'est dit qu'on allait réduire cette surface. Et pour ça, on a consulté nos salariés, on a consulté des spécialistes. Et on s'est fait aider de consultants qui nous ont accompagnés dans cette démarche et de quelques start-up qui nous ont aidés à mettre les outils en place pour faciliter la réservation du.
Alors, je crois qu'on vient de vous perdre pour justement, en revanche, la téléphonie, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple du côté de chez Tingari, parce que ce qui est intéressant, c'est l'espace de réunion, la couleur, le mobilier innovant qui a pu être mis en place. Stéphane Braconnier, président de l'université Paris Panthéon Assas, chez vous aussi, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs dans une fac comme la vôtre.
400, plus
voilà,
de 400.
On réorganise aussi les locaux dans des bâtiments qui sont pas toujours, comment on peut dire, les plus modulables possibles.
Oui, alors ça, c'est une vraie difficulté, une vraie question, le télétravail. Il y a eu une forme de paradoxe qu'il faut constater dans le discours gouvernemental consistant à dire il faut que les universités continuent à fonctionner à 100%, les cours en présentiel à 100%, les examens en présentiel à 100%.
Mm-hmm. Et d'un autre côté, du côté des étudiants, mais il y a le côté administratif.
Et du côté des administratifs, on nous disait mettez vos administratifs en télétravail 3 jours, voire 4, ce qui honnêtement, pour les services administratifs qui sont en front office vis-à-vis des étudiants, est quasiment impossible. Donc nous avons essayé à l'université, nous en accord avec les agents, de trouver la meilleure solution, le meilleur point d'équilibre. Hein, nous avons négocié et rédigé une charte du télétravail. Nous avons aussi réorganisé un peu les bureaux.
Et là, ça marche bien. Ça y est, c'est entré dans les habitudes.
Ça rentre dans les habitudes. La difficulté, en réalité, la difficulté de terrain, hein, si je peux parler ici de la difficulté de terrain, c'est que le télétravail a été mis en place de façon un peu sauvage au moment de la crise sanitaire,
oui,
parce que sous la contrainte, sans organisation, sans l'apaisement nécessaire à la mise en place du travail. Et là, aujourd'hui, on arrive à quelque chose de plus construit en faveur, évidemment, des personnels.
Merci Stéphane Braconnier. C'est la fin de votre émission. Je rappelle que vous êtes le président de l'université Paris Panthéon Assas. Merci d'être venu dans la France Bouge, Emmanuel. Nous, on se retrouve demain. On va parler de quoi demain?
Demain, on va faire les courses. Notre invité, ce sera Michel Biro, qui est l'un des patrons de Lidl en France. Lidl qui est en train de tailler des croupières au grand nom de la grande distribution.
À demain, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.